Patrick O'Donne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui est vraiment très intéressant sur la brigade blindée indépendante tchécoslovaque qui a largement participé donc à la libération de Dunkerque avec à sa tête le général Alois Leschka dont on reparlera tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans votre ouvrage, évidemment, on va pas retracer toute l'histoire de l'armée tchécoslovaque parce qu'on a fait beaucoup d'émissions là-dessus et je veux vraiment me consacrer à la brigade et notamment à Dunkerque. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous rappelez que, en effet, au moment des accords de Munich, hein, la Tchécoslovaquie a la 6e armée d'Europe, la 8e armée du monde, et pourtant, toute cette armée va être disséminée partout aux quatre coins de l'Europe, justement à cause, alors à la fois de l'abandon des démocraties occidentales et évidemment plus tard de l'occupation de la Tchécoslovaquie par les armées hitlériennes.
L'idée m'est venue d'écrire ce livre parce que, bon, s'il y avait eu beaucoup d'ouvrages qui ont été consacrés à la libération de Dunkerque, je dirais que la brigade blindée tchèque figurait comme simplement un épisode. Or, elle est restée 8 mois sur le front de Dunkerque. Et cette présence a été douloureuse et aussi efficace pour la libération de Dunkerque. Elle était aux côtés de troupes canadiennes, britanniques, mais aussi des troupes françaises, d'anciens résistants qui avaient souscrit un engagement dans l'armée française pour garder, entre guillemets, ce front et non pas essayer de le réduire, mais simplement de pouvoir, je dirais, l'assaillir de façon à ce que, eh bien, on attende la libération et notamment la capitulation de l'Allemagne.
Alors, il faut rappeler en effet que justement, hein, après l'occupation de la Tchécoslovaquie, je le disais en introduction, hein, énormément de soldats tchécoslovaques donc, vont partir, certains vers la Pologne, certains vers la France, certains vers le Moyen-Orient, certains vont s'engager dans la Légion étrangère française. Il va y avoir évidemment cette unité tchécoslovaque qui essaie de se reconstituer à Agde. Certains vont participer évidemment à la bataille de France, mais évidemment en 1940, avec la défaite. Une fois de plus, ils vont devoir repartir, et notamment en Angleterre. Peut-être, est-ce que vous pourriez rappeler en quelques mots comment naît cette brigade blindée indépendante tchécoslovaque, donc qui naît sur le sol britannique, et peut-être remettre un petit peu dans ce contexte particulier.
Je voudrais quand même dire que cette brigade, finalement, elle est quelque part l'héritière des troupes qui ont combattu en 14-18 aux côtés des Alliés sur le territoire français. Quand il y a la défaite, une défaite qui a été humiliante pour les Alliés, ces troupes tchécoslovaques qui avaient combattu un petit peu, je dirais, tardivement aux côtés de l'armée française, notamment dans la Marne, sont évacuées. Elles sont évacuées au début juin par les navires britanniques. Évacués par la Méditerranée et par les ports de l'Atlantique pour rejoindre l'Angleterre. Arrivés en Angleterre, ces troupes sont cantonnées dans le centre de la Grande-Bretagne, à Cholmondeley Park. Et je dirais que la constitution de cette brigade a été assez laborieuse. Difficile parce que bon, les Britanniques ont dû faire face à une mutinerie au sein de ces troupes, puisque environ sur les 3 400 qui avaient été regroupés, 500 d'entre eux étaient des communistes et ne supportait pas d'être dirigé par des officiers tchèques qui n'étaient pas de leur sensibilité politique. Donc à partir de là, cette brigade a été utilisée pour des tâches, je dirais, annexes, notamment la garde d'aéroport, également pour la construction d'ouvrages défensifs, etc. Et ce n'est qu'en 1943 que les Britanniques décident qu'elle devra devenir une brigade blindée.
Et est-ce que, d'une certaine manière, on peut dire que, du côté tchèque, par exemple, tchécoslovaque, il y a la volonté donc du président tchécoslovaque en exil, Edvard Beneš, hein, qui est basé à Londres, on va dire d'avoir justement une petite unité d'armée constituée quand même à l'étranger, donc en Occident, pour d'une certaine manière défendre une forme de légitimité hein, de la Tchécoslovaquie, certes démantelée, à participer à l'effort de guerre, au combat contre les nazis, pour potentiellement après-guerre avoir aussi son mot à dire. Hein.
Oui, alors dans l'esprit de Beneš, c'est surtout de disposer d'un potentiel armé pour accompagner les Alliés vers la libération de la Tchécoslovaquie. Les Britanniques sont très réservés. Parce que cette brigade est premièrement numériquement, je dirais, insuffisante pour mener des combats sérieux. Et d'autre part, Beneš ne veut pas sacrifier cette brigade parce qu'il a besoin de ce potentiel pour retourner en Tchécoslovaquie. Et donc cette brigade va être affectée au front de Dunkerque de façon à ce qu'elle puisse mener certains combats, mais des combats qui soient pas trop meurtriers.
Oui, pour pas
Donc
qu'elle soit décimée,
voilà,
par les combats.
il faut absolument pas qu'elle soit dessinée pour retourner en Tchécoslovaquie. Et je dirais, dans les derniers jours de la guerre, il y aura une partie de cette brigade qui sera autorisée, mais ce sera vraiment minimal, 150 hommes qui seront autorisés à rejoindre dans un premier temps les troupes britanniques du général, les troupes pardon américaines du général Bradley. Et ce n'est qu'assez tardivement, c'est-à-dire après la libération de Dunkerque, plusieurs jours après, qu'elle est autorisée à remonter vers la Tchécoslovaquie. Et quand elle va arriver en Tchécoslovaquie, elle sera gardée en réserve je dirais, de l'autre côté de la frontière qui sépare les troupes alliées de l'armée rouge. Faut dire qu'aussi, quand elle vient à Dunkerque, les négociations entre le tracé qui va séparer les troupes soviétiques des troupes américaines n'est pas encore établi. On sait pas juste les Alliés savent pas jusqu'où iront les soviétiques et les Alliés eux-mêmes ne savent pas jusqu'où ils vont pouvoir aller.
Peut-être au niveau de la composition de cette brigade, si on peut s'y arrêter quelques minutes, quelle est sa composition ethnique? Parce qu'évidemment, à ce niveau-là, c'est intéressant d'en parler, puisque la Tchécoslovaquie était un État multi-ethnique. En outre, nous avons fait un entretien, évidemment, avec Jean-Marc Alcalé sur la grosse proportion, hein, 25 à 30% de combattants juifs au sein de cette brigade blindée tchécoslovaque. C'est assez intéressant. On a quoi? On a des Tchèques, des Slovaques, des Allemands, des Juifs tchèques, des Juifs slovaques. Enfin, ça se combine comment? Et peut-être quelques autres étrangers aussi, peut-être qui sont intégrés à cette brigade?
Alors, cette brigade, d'après les estimations qu'on peut avoir et qui ont été données par Jean-Marc Alcalé, On a à peu près entre 20 et 30% de soldats d'origine juive. Ce sont des soldats qui ont quitté la Tchécoslovaquie, soit en 1900, essentiellement en 1939. Ce sont aussi des soldats qui ont combattu au Moyen-Orient et qui ont ensuite été réintégrés à la brigade tardivement pour la conforter numériquement. Il faut dire aussi, hein, faut être clair là-dessus, que cette brigade est composée essentiellement de Tchèques. Il y avait une rivalité entre Tchèques et Slovaques qui ne s'entendaient absolument pas. Cela a créé d'ailleurs certaines difficultés pour, je dirais, l'harmonie de cette brigade. C'était une brigade assez composite dans sa formation. C'était surtout je dirais des juifs qui étaient en France aussi à cette époque-là, parce que la communauté tchécoslovaque dans la région parisienne constituait environ 50 000 personnes, ce qui n'était pas rien.
Bien sûr.
Notamment des juifs qui avaient fui la Tchécoslovaquie, sachant très bien ce qui pourrait leur arriver en termes d'occupation allemande. Et faut pas oublier aussi que la Tchécoslovaquie était sous le gouvernement de Reinhard Heydrich, qui lui était le maître d'œuvre, qui a été le maître d'œuvre de la solution finale.
Tout à fait.
Il n'est pas étonnant qu'on retrouve un pourcentage important de soldats d'origine juive dans cette brigade.
Et c'est intéressant justement aussi de rappeler quand même qu'en effet, des juifs ont pris les armes contre les nazis, puisque
Tout à
dans
fait.
l'historiographie, on a toujours tendance un petit peu à ne voir que le côté évidemment totalement légitimement hein, des victimes juives de la Shoah. Mais en fait, on se rend compte que beaucoup de juifs, en fait, alors soit dans le cadre de révoltes de ghettos ou de camps de concentration, soit en effet en ayant fui et en ayant rallié des troupes alliées, ont combattu contre les nazis. La brigade, en fait, débarque évidemment pendant l'été 1944 en Normandie, si je ne me trompe pas. Et puis à partir d'octobre, évidemment, donc elle avance avec avec le reste des troupes. Et à partir d'octobre, ça donc va commencer en fait ce fameux siège de Dunkerque dont vous disiez en effet qu'il est très long, hein, c'est 8 mois. Quelle est la situation justement quand la brigade arrive aux alentours de Dunkerque? Quelles sont les forces en présence? Quelles sont on va dire les grandes lignes de ce siège de 8 mois?
Alors, quant à la brigade arrive en octobre, la situation de Dunkerque est la suivante. D'une part, les civils ont pratiquement tous été évacués à la faveur de la trêve du début octobre, qui intervient juste avant l'arrivée de la brigade. Donc, il reste à peu près à Dunkerque 600 civils qui n'ont pas voulu partir. La garnison allemande qui a pris possession de Dunkerque, ce ne sont pas des troupes d'élite, mais elles sont dirigées par ce qu'on peut appeler un nazi complètement frénétique, qui est l'amiral Frisius, qui avait exercé ses fonctions à Cherbourg pendant l'occupation. Et cet amiral va spontanément proposer ses services pour diriger des forces qui sont arrivées dans la poche de Dunkerque, et notamment la 226e division d'infanterie, une division qui n'est pas je dirais, ce ne sont pas des soldats d'élite. Mais cet amiral Frisius va réorganiser cette division, créer des groupes de combat. Et ce qui est important surtout, c'est qu'il dispose d'une artillerie qui est conséquente et également qu'il a des ressources en munitions pratiquement inépuisables. Donc la brigade, quand elle va entourée Dunkerque, elle sera dès le mois d'octobre assaillie par certaines opérations allemandes, des offensives qu'elle devra conjuguer. Et arrivé l'hiver arrive vite ici en Flandre, donc les combats, si vous voulez, peuvent se résumer à des échanges d'artillerie qui sont très nourris. Les Alliés vont demander à plusieurs reprises l'appui de l'aviation britannique pour des bombardements. Et en général, si vous voulez, globalement, on peut dire que ce sont des escarmouches, ce sont des combats qui sont pas de vrais combats. D'autant plus que toute une partie de la région de Dunkerque est inondée. Donc, si vous voulez, le périmètre, il y a à peu près 40%, 40 à 50% du périmètre autour de la poche qui est inondé. Donc, les combats vont se situer côté frontière belge dans un premier temps au mois d'octobre et ensuite à l'ouest de l'agglomération, avec une offensive allemande très sérieuse qui va se dérouler, et là ce sera la plus importante d'ailleurs, qui va se dérouler au mois d'avril 1945, donc à la veille de la capitulation finalement.
À la tête de cette brigade, c'est le général Alois
Oui.
Lischka. En quoi, alors pourquoi lui en particulier? En quoi est-ce qu'il est l'homme de la situation pour le coup?
Le général Liska avait dirigé un régiment qui avait combattu en 1940. Bon, il fallait pour les Britanniques désigner, parce qu'il a été désigné par les Britanniques, trouver quelqu'un qui n'avait aucune compromission communiste, quelqu'un qui était modéré, quelqu'un qui était un militaire de valeur. Et ce choix s'est fait sur lui dans ce contexte de difficulté de gestion de la brigade britannique. Bon, parce que, si vous voulez, cette brigade était numériquement très faible, si on la compare par exemple à l'armée polonaise qui a accompagné les troupes britanniques. C'était quelqu'un qui savait diriger ses hommes. Et qui savait aussi, était suffisamment souple, je dirais, pour travailler avec les Britanniques, parce que c'était pas évident de bosser avec Montgomery. Et c'est Montgomery qui l'a finalement choisi au regard de ses critères.
Peut-être quel est le bilan humain du côté de la brigade à la toute fin, hein, une fois que
Ouais,
les combats cessent?
alors. Il est, je dirais, les pertes de la brigade sont relativement faibles. Mais enfin, il y a quand même eu 167 morts au sein de la brigade lors des combats et des échanges d'artillerie. De la même façon, si vous voulez, du côté des troupes britanniques, le nombre de pertes était à peu près équivalent, de même du côté de l'armée française. Donc, on peut considérer, au total, si on réunit Britanniques, Tchécoslovaques et Français, que 500 hommes, ont été tués sur le front, sans compter le nombre de blessés qu'il y a eu.
Alors, on arrive justement un peu à la fin justement de cet épisode, hein, cette fameuse capitulation de l'amiral allemand Frisius dont vous parliez tout à l'heure et qui en effet était un nazi fortuné. Il ne capitule que le 9 mai et non pas le 8 mai comme évidemment officiellement c'est la date de la capitulation de l'Allemagne. Et d'ailleurs, vous racontez un échange. Assez étonnant entre l'amiral Frisius et l'officier de liaison tchécoslovaque, un certain Polak, puisque en effet, quand cet officier de liaison va voir l'amiral, Frisius tourne autour du pot, ne veut pas dire en fait réellement qu'il capitule, même s'il est obligé de le faire. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cet épisode assez incroyable?
Oui, alors cette libération retardée de Dunkerque, je dirais, est liée à la personnalité de cet amiral Frisius, qui a attendu de recevoir de Berlin l'ordre de capitulation. Il a retardé, il a essayé de retarder au maximum les choses. Et ce n'est que le 9 mai finalement que la capitulation de la poche de Dunkerque et des troupes allemandes qui étaient enfermées a pu avoir lieu le 9 mai, c'est-à-dire le lendemain de la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale.
Et c'est le général Alois Liška qui va recueillir cette capitulation.
Alors, c'est le général Alois Liška. Autour de la table, il est entouré de Britanniques et les Français ont dû faire je dirais, le forcing pour être autorisés par les Britanniques à assister à cette cérémonie. Ce que voulaient surtout les Britanniques, c'était dans un premier temps écarter les Français pour prendre possession du port et procéder, je dirais, procéder à certaines destructions de façon à ce qu'ils puissent pas servir contre l'Angleterre. Ça a été le cas notamment quand lors de la conquête et de la libération du Pas-de-Calais. Où systématiquement, bon, les Britanniques voulaient savoir ce que les Allemands avaient constitué comme défense, et ils voulaient surtout, je dirais, avoir le monopole de la force allemande et de la capture de Frisius. Frisius, l'amiral Frisius, 2 jours plus tard, sera envoyé dans un camp d'officiers supérieurs allemands en Angleterre. Donc, ils voulaient vraiment avoir la même. Les Britanniques ont voulu avoir vraiment la mainmise sur Dunkerque avant de remettre la ville aux Français.
Évidemment, votre livre y contribue hein, à cette mémoire de la brigade tchécoslovaque dans la libération de Dunkerque. Aujourd'hui, à Dunkerque même, justement, quelle est la place de cette mémoire de cet épisode historique qui lie finalement nos deux pays, hein, la France et la Tchéquie? Je crois savoir qu'il y a une plaque hein, en l'honneur d'Alois Liška, mais peut-être est-ce que c'est quelque chose voilà qui est commémoré, qui est rappelé voilà lors d'anniversaires comme cette année. Par exemple.
Alors, cette mémoire, effectivement, ressurgit essentiellement à l'occasion des commémorations. Et d'ailleurs, il y aura une représentation tchèque aux commémorations de Dunkerque le 8 mai, le 8 mai prochain. Dans la mémoire collective, c'est assez effacé quand même cette présence de Tchécoslovaque. Mais comme vous l'avez dit, on retrouve notamment dans le musée Dunkerque Dynamo 1940 une plaque portant les noms de tous les Tchécoslovaques qui sont décédés sur le front de Dunkerque. Et il y a également un portrait du général Liška avec un cartel développant sa biographie. Ces commémorations mettent en valeur et rappellent surtout les combats qui ont eu lieu sur le front. Et cette brigade blindée, finalement, les habitants qui étaient en zone libre de Dunkerque et en Flandre avaient en général de très bonnes relations avec les soldats tchèques. Et elle est partie un peu trop rapidement, cette brigade, pour rejoindre la Tchécoslovaquie. Bon, on sait ce qu'elle est devenue, hein.
Oui,
Les Soviétiques ont retardé au maximum le défilé de cette brigade à Prague, puisque ça se situe à la fin du mois de mai. Et puis après, cette brigade, on peut dire qu'elle a été démantelée. Elle a été démantelée pour la simple et bonne raison que les Soviétiques considéraient que c'était des hommes qui avaient connu l'Ouest. Et qu'ils n'avaient plus leur place dans l'armée rouge. Donc cette brigade a été pratiquement dissoute, elle a été reconstituée en diverses brigades et éclatée géographiquement sur le territoire de la Tchécoslovaquie. Et puis finalement, elle a été rééquipée avec du matériel soviétique et complètement, je dirais, fondue dans l'armée rouge.
Et
Kniska, par
c'est d'ailleurs symptomatique en fait de beaucoup en fait de ces troupes, de ces soldats qui ont combattu à l'Ouest et qui sont revenus au pays et au moment de l'arrivée au pouvoir après du Parti communiste en Tchécoslovaquie,
Tout à
soit
fait.
seront emprisonnés, soit seront exécutés, soit devront prendre le chemin de l'exil comme Alois Leschka qui finira par mourir en 1977 à Londres.
Et oui, qui va s'exiler, qui va s'exiler à Londres parce que bon, il n'a plus sa place pour éviter aussi pour éviter une répression, pour éviter la répression, voire des procès comme ceux qui ont marqué toute l'histoire stalinienne.
Merci beaucoup, Patrick O'Donne. Merci.
Mais je vous en prie, c'est un plaisir pour moi, ce fut un plaisir.